nous avons aujourd'hui à approfondir la question du partenariat, non pas parce que c'est chic, ça serait moderne, ça serait sympathique de dire on est tous partenaires parce que c'est la coéducation, mais je crois que au-delà de ce concept qui est parfois un peu creux, il conviendrait d'identifier les pistes prioritaires de ces partenariats pour le bien-être des enfants, mais aussi pour le bien-être des professionnels, parce que des professionnels de la petite enfance, j'inclus l'école maternelle dedans, qui sont des professionnels malheureux, insatisfaits, qui ne savent pas où ils vont, qui ont du mal à reconnaître les missions qui leur sont fixées. Je pense que ça ne rejaillit pas tout à fait positivement sur les relations qu'ils entretiennent avec les familles, avec l'école et avec l'institution. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, on s'en aperçoit à peu près à tous les niveaux. Ben, en France, on peut dire qu'on a une conception de la petite enfance qui est plutôt très généreuse à partir de 3 ans, puisque la scolarité est universelle et gratuite. Et avant, c'est beaucoup moins glorieux. Alors certes, il y a des améliorations, mais on part quand même de très loin. Donc je vais rappeler quelques chiffres, peut-être aussi pour vous dire que les débats assez stériles qu'on a entendus ces dernières années, est-ce que les enfants de moins de 3 ans, ils sont mieux dans une crèche ou à l'école? Franchement, je ne sais pas, mais la question n'est pas là, c'est sûr, pour des raisons de principe de réalité. Moi, les derniers chiffres que j'ai retrouvés, sans doute il y en a qui ont été affinés, c'est les chiffres de l'adresse de 2007. Aujourd'hui, le mode d'accueil, de garde principal pour les enfants de moins de 3 ans, c'est la famille. Et quand on dit la famille, c'est la mère, essentiellement. C'est 63%. Ce n'est pas toujours un choix, bien au contraire. Viviane Buis a évoqué le coût de la prise en charge des très jeunes enfants. Aujourd'hui, une mère de famille qui est très peu qualifiée, qui a donc un emploi très peu rémunéré, si elle n'a pas de place en crèche, elle est contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle, sinon elle travaille pour payer l'assistante maternelle. Donc, ça nous fait des familles, et souvent il y a des familles monoparentales dans cette situation-là, qui sont fragilisées économiquement, qui ont un niveau de qualification qui est bas, donc qui rend l'insertion sur le marché du travail difficile et qui n'ont d'autre solution que de garder leur enfant à la maison en attendant au bonheur que les portes de l'école maternelle s'ouvrent. Ça donne un petit élément de contexte. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15% des enfants qui ont accès à une crèche, avec des disparités régionales très importantes, notamment dans les modes d'attribution des crèches. On a encore des régions, des collectivités qui considèrent que pour avoir accès à la crèche, il faut que les deux parents travaillent. C'est les familles biactives. Alors, autant vous dire que toutes les familles dont vient de parler Chantal Zaouche-Godron, et même des familles pas recensées comme étant dans la pauvreté, mais sont de fait exclues. J'ajoute aussi que selon les régions dans lesquelles on travaille ou on vit, il y a des dimensions d'absence de critères d'attribution des places et que le clientélisme municipal joue à plein. Voilà. Ensuite, on a les assistantes maternelles dont la prise en charge, le coût diffère très fortement d'une région. Après, il y a plein de zones d'ombre, hein. Les enfants confiés à la voisine, à tout ça, c'est pas dans les statistiques. Mais quand on travaille dans une mairie, y compris quand on travaille avec des personnels de catégorie C sous ses responsabilités, on mesure à quel point les arrangements entre voisins, etc., sont dominants. Moi, je travaille depuis maintenant 6 ans en collectivité locale. Le personnel qui fait l'entretien des écoles et qui est dans les écoles à 6 heures du matin, bah à 6 heures du matin, il faut bien avoir fait quelque chose de son enfant quand on partait travailler. Et quand on gagne le SMIC, on ne peut pas payer une assistante maternelle qui va vous prendre votre enfant à 5 heures du matin. Donc, c'est la débrouille. C'est l'enfant qui est plus grand, si on a un collégien qui va prendre en charge son petit frère ou sa petite sœur, ou c'est l'enfant à 5 heures du matin à la voisine. Je dis ça pour qu'on intègre un petit peu la réflexion sur ce que c'est que scolariser des tout-petits et que les enfants, ils sont pas tous égaux quand ils arrivent à l'école. Quand on ouvre la porte, il y en a qui ont déjà eu une longue journée moyennement agréable, on va dire. Donc, on a 4% des enfants qui sont gardés par leurs grands-parents. On a 2% de garde à domicile. Ça, c'est les ultra-favorisés qui ont des emplois à domicile et qui sont d'ailleurs fortement subventionnés, ce qui n'est pas d'une grande équité sociale. Et aux alentours de 3% à l'école.
Alors, il y a eu tout un tas de dispositifs, effectivement, de réflexion. Moi, je suis au projet éducatif depuis 11 ans. Donc, l'idée des dispositifs passerelles, c'est un peu concrétisé cette année avec la mise en place d'un dispositif passerelle sur le 8e arrondissement, avec effectivement un travail très, très partenarial, et je veux insister là-dessus, entre la direction de l'enfance, la direction de l'éducation et évidemment l'éducation nationale. Mais aussi avec nos partenaires institutionnels que vont être la CAF, l'État, voilà. Ben, le premier levier, je pense que c'est vraiment le partenariat, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, il n'y en a pas un qui a plus la parole que l'autre, et que vraiment on dépose nos représentations des uns des autres. J'ai évidemment oublié un partenaire hyper important, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est le bon mot, le partenaire, mais en tout cas ce sont les parents qui aussi doivent être présents, c'est-à-dire qu'on répond autant que faire se peut aux besoins des enfants et des parents, de leur famille. Donc ça, c'est une priorité. Donc à partir de là, effectivement, on se met autour de la table et on discute à savoir quelles sont les difficultés et quelles réponses on peut apporter de manière effectivement partenariale. Donc ça, c'est le premier levier. Après, effectivement, je pense que chacun... je pense aux professionnels en particulier, doit lâcher des choses pour aller en prendre d'autres, et que c'est comme ça que ça va avancer. Et alors un grand, grand respect de l'enfant et de sa famille me semble le premier des leviers. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas condescendant, on n'est pas là pour leur apprendre des choses, on est là dans le respect de ce qu'ils ont envie de vivre, besoin de vivre, et comment on peut accompagner ce démarrage dans la scolarité. J'ai presque envie de dire, plus que la scolarité, ça ramène à l'école en tant qu'éducation nationale, mais à cette entrée dans l'école, dans l'école avec tous les partenaires de l'école. Et il y a du monde, il y a beaucoup d'adultes dans une école. Alors les freins, c'est comme tout un chacun, on a du mal à lâcher ce qu'on a, hein, ce qu'on est, comment on a été formé. Après, il y a aussi, une fois qu'on a passé le frein des représentations, il y a aussi, il ne faut pas se cacher, les problématiques liées au financement, aux aspects aussi, les horaires des uns, des autres, les contraintes institutionnelles, elles existent. Donc, est-ce qu'on est en capacité de tout casser pour réinventer et de garder ce qu'il y a de meilleur, si possible? Voilà, c'est vraiment des questions importantes.
Dans les sujets qui concernent à la fois l'école et les collectivités locales, c'est des sujets qui sont peu souvent l'objet de débats professionnels construits. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas, hein. Je dis peu traités comme des objets professionnels construits, et encore moins traités comme des objets de formation commune ou séparée. Où sont les enfants avant l'école? C'est pas tout à fait pareil d'accueillir pour une première scolarisation, qu'elle ait lieu à 2 ans et demi ou à 3 ans, un enfant qui a fréquenté une structure collective ou pas. Et moi, je suis toujours frappée de voir que dans l'éducation nationale, depuis des années, on s'est préoccupé des liaisons entre le CM2 et la 6e, entre la grande section et le CP. Mais savoir ce qu'un petit a fait avant de rentrer à l'école, ça me paraît vraiment extrêmement intéressant. Et les classes dans lesquelles on connaît ces situations-là au moment où on prend les enfants le jour de la rentrée, elles ne sont pas majoritaires parce que voilà, l'école, c'est une rupture, c'est un moment important de la vie. Et c'est comme si on faisait un peu... Alors, ça change, hein, et ce n'est pas vrai partout. Mais comme si on faisait un petit peu table rase de ce qui s'était passé avant. Pourtant, un enfant qui aura été, qui aura fréquenté la crèche, ou un enfant qui aura été gardé avec d'autres enfants, ou un enfant qui sera resté tout seul avec sa mère en situation qui peut être très diverse économiquement, socialement, c'est très différent. Ensuite, est-ce que les petits qu'on récupère, ils arrivent tranquillement? Je vais prendre le schéma de l'école qui commence à 8h30. Donc, on arrive à 8h20 à l'école. On arrive à 8h20, on est amené par son papa ou sa maman. On s'est levé le matin, on a pris le petit déjeuner bien tranquille. Et voilà une journée qui s'annonce assez gentiment. Mais on va être dans la classe d'un petit à côté qui sera à l'accueil du matin depuis 7h20. Pour être à l'accueil du matin à 7h20, il ne faut pas s'être levé à 7h10. Donc c'est un enfant qui aura été très très tôt. Il se retrouve à l'accueil du matin. Peut-être il est levé depuis 6h30. Il y a beaucoup d'enfants à qui ça arrive. 6h30, 7h30, 8h30. La classe commence, il est déjà debout depuis 3h. Quand vous êtes dans une classe de toute petite section, vous voyez des enfants à 9h qui ont l'air, on va le dire gentiment, pas très réceptifs aux apprentissages ou aux activités proposées par la maîtresse. Oui, mais sauf qu'ils sont dans l'état de fatigue dans lequel celui qui arrive à 8h30 va être à 11h30. Donc il y a certains enfants, ils sont tout simplement déjà fatigués. Donc on ne va pas pouvoir, l'école et les villes ne vont pas pouvoir régler à elles seules des questions comme ça. Mais en tout cas, elles peuvent peut-être se poser plus qu'elles ne le font aujourd'hui la question, comme disait Viviane Bouys, du bien-être des enfants et la capacité à mettre en place des situations favorables aux apprentissages. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de bien-être que les apprentissages vont couler de source. Ça, on le sait très bien. Mais il y a des situations de vie qui font que ça empêche d'être en situation de profiter pleinement de tout ce qui va être offert à l'école maternelle en termes de découverte, d'activité et d'apprentissage. Donc, la question de savoir comment accueille-t-on les enfants le matin à l'accueil du matin, dans quel lieu, avec quel personnel et dans quelles circonstances. Bien sûr, ce n'est pas le temps de l'école. Et moi, je sais que les enseignants ont déjà une musette bien chargée en termes de charge de travail. Mais néanmoins, il me semble que si on cherche ou on pense qu'il y a des objets de discussion et de partenariat qui peuvent être intéressants, moi, je pense que la qualité de l'accueil du matin, ça compte. Les locaux ne sont pas toujours construits pour ça. On a des écoles maternelles où, à l'origine, on a construit une pièce, une salle polyvalente, une salle d'activité. Puis au fur et à mesure de la hausse de la démographie, on a récupéré ces espaces-là pour en faire des classes. Et bref, les situations où l'accueil du matin se fait dans le préau, c'est très fréquent, extrêmement fréquent, avec un matériel et un espace qui n'est pas pérenne. Donc ça veut dire des équipes d'animateurs qui arrivent le matin, qui arrangent un peu un quart d'heure avant comme ils peuvent, qui font au mieux. Puis vite, avant que les équipes enseignantes arrivent, on range tout parce que la salle va être occupée après par des activités d'EPS ou d'autres. Donc le matin, sous le préau, dans une lumière blafarde, même quand on est adulte, on n'est pas hyper joyeux à 7h20. Alors quand on est un tout petit et que c'est sa première rencontre avec l'école, il y a mieux. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a des espaces d'amélioration assez importants, mais il faut simplement vous dire que c'est des sujets qui ne sont pas forcément pris en compte, tout simplement parce que parfois les gens n'y pensent pas. Dans les services municipaux, on n'y pense pas parce qu'on est débordé par plein d'autres choses. À l'école, on n'y pense pas. Les élus n'y pensent pas. C'est le jour où on dit... ne croyez-vous pas qu'on pourrait peut-être faire quelque chose, qu'on se dit, bah oui, les pauvres petits, ils vivent des journées qu'on n'aimerait pas vivre, hein, voilà. Ben, regardez un enfant qui va déjeuner au restaurant scolaire. Déjà, qui va l'accompagner pour le restaurant scolaire ? La question de l'attachement à l'adulte. Ben, un enfant qui va rentrer pour la première fois à l'école maternelle, donc il va vivre l'école, le moment de la cantine, s'il est avec l'ATSEM qu'il a eu en classe, c'est déjà un peu moins affolant de se retrouver à manger avec tout plein d'enfants, parce que certains enfants ont toujours mangé tranquille à la maison avec des adultes, et en crèche, on n'a quand même pas le même taux d'encadrement et les mêmes conditions. Bah, des conditions en milieu urbain, c'est que des fois, il y a 80 ou 90 enfants qui mangent dans la même salle, en école maternelle. Si vous rentrez dans une salle comme ça, en admettant que les locaux sont relativement bien adaptés, on est saisi par le niveau sonore, qui est extrêmement fatigant pour les agents qui encadrent le temps du déjeuner, et vous pensez bien, encore plus pour des petits de 3 ans. Donc moi, je pense que la question, puisque en ce moment, on a le sujet des rythmes scolaires qui agite beaucoup de monde, je pense qu'à la faveur de la réforme sur les rythmes scolaires, dont on pourrait discuter des conséquences sur leur application en école maternelle, par ailleurs, la question du temps du déjeuner, c'est vraiment extrêmement important. Est-ce que je mange dans le calme ? Est-ce que j'ai un adulte de référence ? Est-ce que la personne qui va m'accompagner pour le déjeuner, elle sait ce que j'ai éventuellement comme problème de rapport à l'alimentation ? Si c'est une ATSEM, c'est bien, parce que la maman ou le papa, si elle est venue à l'école le matin, elle peut confier ses petites inquiétudes, donner des petites indications, etc. Les autres, à part si vous avez un PAI, parce que vous avez un problème médical, il n'y a pas d'échange. Deuxièmement, quand on est tout petit, si on a une pause méridienne, on va dire de 2 heures ou même d'une heure et demie, quand on a fini de manger, qu'est-ce qui se passe ? Bah, quand on est à la maison, un petit, on ne se pose pas la question. Il a fini de manger, on lui dit, bah, viens mon petit, on va aller faire la sieste. Ouais, mais à l'école, ce n'est pas toujours comme ça, pour des tas de raisons. Alors, des raisons d'organisation. Pour amener les petits à la sieste, bah, il faut du personnel municipal en plus, parce qu'il y en a qui vont rester dans la cour ou sous le préau avec les autres enfants qui vont avoir un temps d'activité plus ou moins structuré ou pas. C'est une autre question. Mais il faut avoir des animateurs qu'on va donc payer, qui vont aller coucher les plus petits. Mais ne croyez pas que toutes les écoles aient envie qu'on couche les tout-petits après le restaurant scolaire, parce que ça pose des petits problèmes. Ça pose le problème de se dire, si le petit, il est couché à midi et demi, il ne va pas rester dans le dortoir jusqu'à 15 heures, parce qu'il sera réveillé avant les autres. Il va falloir gérer le fait qu'on a une partie des enfants qui sont couchés, on a ceux qui vont revenir à l'école, qui vont aller se coucher. Alors souvent on nous dit c'est terrible, ils vont se réveiller, ça va. Non, quand c'est bien organisé, il n'y a pas de problème, on arrive très bien à le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, avec les personnels de l'école, l'équipe enseignante, les ATSEM et les locaux, parce que ça dépend où sont situés les dortoirs, d'organiser un lever échelonné pour que les enfants ne soient pas le nez en l'air à attendre que ça soit l'heure officielle de se lever. Moi, j'ai fait une enquête dans les communes via les ATSEM en leur demandant « Mais comment ça se passe la sieste dans votre école ?» Pourtant, c'est des gens très investis, les écoles, elles sont paisibles et tout. Donc, le lever échelonné, quand je suis arrivée dans la commune, le fait de permettre aux enfants de se coucher après le déjeuner, c'est minoritaire. Et le lever échelonné est également minoritaire. C'est-à-dire que voilà, tu as 3 ans, tu rentres, tu te couches, puis on décide que si tu n'as plus sommeil, bah, tu joues, tu regardes le plafond, etc. Il y a mieux en termes de bien-être. Je ne dis pas que c'est de la maltraitance, mais ça n'a pas énormément de sens. Mais il y a des petits éléments de contexte qui font que parfois c'est très dur à organiser parce que le dortoir, il n'est pas à côté de la classe, il est à l'autre bout de l'école, il est... Bon, toutes sortes de choses comme ça.